RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters d'Éric Carrière et de Samuel Umtiti, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui Jonathan Macardy. Jonathan, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Et avec Edouard G qui est à Lyon. Salut Edouard.
Salut Gilbert, salut Jonathan,
salut à tous.
L'évaluation évidemment après le match à Montpellier. Et puis des débats comme toutes les semaines. Gagner moche, est-ce que c'est mal à Lyon? On va se poser la question. Où faut-il faire jouer Paqueta? Parce qu'il y a débat. Et puis Lopez quand même qui fait une saison assez incroyable. Il faut qu'on en parle. C'est tout de suite dans le podcast After Lyon. Edouard, un homme du match?
Bah, j'en ai marre de mettre Anthony Lopez et puis vu qu'on en fait un débat,
sujet.
Donc
ouais.
je vais l'enlever. Au départ, je voulais mettre Emerson pour sa régularité à son poste parce que je trouve que même si hier, il n'a pas forcément été transcendant, un petit peu à l'image de l'équipe, voilà, je voulais le mettre pour sa régularité. Puis finalement, en regardant le match, je vais mettre Malo Gusto parce que Malo Gusto, c'est bien intégré. Il a dans le nouveau schéma parce que hier, si vous voulez, c'était plus une défense à 3 à un moment donné pour utiliser Malo Gusto sur le couloir droit pour décharger aussi Lucas Paqueta. On en parlera peut-être aussi du placement de Lucas Paqueta. Et dans ce rôle, on a vu que voilà, les centres étaient précis. D'ailleurs, c'est un de ces centres qui arrive et qui permet le premier but. Je trouve que voilà, on voit ses qualités parce qu'au départ, il est certes né à Décines, hein, mais il est plutôt de Villefontaine et de Bourgoin-Jallieu. Donc plutôt, il a fait ses classes en Isère. Il était en formation, il était plutôt milieu et attaquant. Donc, il a ces qualités-là qu'on met en exergue dans ce poste de couloir droit. Un petit peu à l'image comme de François Clerc à un moment donné, hein, qui était passé d'un rôle d'attaquant chez les jeunes à un rôle de défenseur latéral pour finir international. Malo Gusto, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais je trouve qu'il a bien progressé, on l'a vu hier.
Moi, j'aime beaucoup Malo Gusto.
Oui. Et un petit peu tensé par Boss en conférence de presse d'après-match.
Ouais, alors Edouard a une théorie d'ailleurs, je crois, là-dessus.
Mais ça sera intéressant d'écouter.
Ouais. Non, sur les jeunes, non?
C'est pas toi que j'ai entendu parler de ça. C'était Daniel, en fait, qui disait que... c'est Kevin qui disait que Boss a une tendance à vouloir dégonfler les boulards.
Tout de suite.
Ouais. Tout de suite, voilà. Dégonfle dans l'œuf le boulard alors qu'il n'a peut-être pas encore commencé à grossir.
Alors, c'est pas tout à fait ça, il y a un peu de ça, mais en fait, c'est qu'il déteste qu'on pose des questions individuelles. Il est tellement dans le collectif que tu lui demandes si Gilbert Bribois a fait un bon match, Jonathan Macardy a fait un bon match.
Non,
c'est le collectif. Voilà, c'est vraiment tout de suite. Donc, il y a aussi cette volonté de couper un peu éventuellement des boulards, même Malo Gusto, là.
Il a fait un très gros match.
Il a fait un bon match, en fait. Après, il y a tellement cette notion de collectif chez Peter Bosz qu'il y a aussi de ça.
Doudou, moi je suis d'accord avec toi, l'homme du match unanimement ça pourrait être Anthony Lopez qui fait encore un match extraordinaire. Il y a deux arrêts qui sont quand même totalement décisifs et qui permettent à Lyon de prendre les 3 points, mais c'est pas pour instaurer ça comme une gimmick, mais très franchement j'ai trouvé encore une fois un Maxence Cacré énorme, notamment en première mi-temps où il a fait tout au milieu défensif montpelliérain. J'ai trouvé qu'il avait justement lui joué très très simple, très bien orienté le jeu. C'était un petit peu moins le cas en seconde mi-temps où il s'est fait un petit peu plus discret, mais encore une fois je trouve que ce jeune joueur fait preuve d'une maturité déconcertante.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Oui, mais c'est vrai, il faut rappeler qu'il est jeune et tout.
Moi, j'ai trouvé fabuleux hier.
Ouais. Bon, on verra quand Dubois revient ce qui va se passer.
Oui, pour Malo Gusto, tu veux.
Ah,
Malo
Gusto. Moi, je te parlais de Cacré, moi.
Ah, pardon, excuse-moi, j'ai eu un moment d'absence alors.
Ah non, pour moi, mon homme du match, c'est Maxence Cacré.
J'étais resté sur Malo Gusto.
Parce que Maxence Cacré, c'est clairement, sur ce match-là et sur d'autres matchs, c'est clairement le patron du milieu de terrain lyonnais, à mon sens.
On parle de Cacré à Edouard.
C'est pour ça que je te dis, j'ai rien dit.
Mais tu sais, Doudou, au début hein, je trouvais que t'en faisais peut-être un peu trop. Et puis au final, maintenant, je comprends et je te rejoins tout à fait.
T'as toujours le même compte en Suisse, c'est bon?
Non, mais vraiment.
Bon, passons au boulet alors.
Valère Germain. Alors. c'est trop facile.
Est-ce qu'il y en a vraiment du côté de l'OL? Moi, j'ai envie de mettre, mais c'est pas forcément contre lui, mais il symbolise un petit peu ce côté manque de côté tueur du groupe. C'est Slimani, Islam Slimani, qui avait une ou deux occasions pour tuer le match à un moment donné, même si le but vient aussi de sa reprise sur le centre de Malo Gusto. Voilà. Et puis c'est un petit peu à l'image de l'équipe. Il y a du talent, il y a de l'envie, il y a de l'allant, mais il y a pas ce
dernier
petit geste.
Il tape la barre. Il est impliqué sur le but. Je trouve qu'il a fait un très gros effort au pressing. Au moins, il n'a pas été avare, comme à chaque fois, très travailleur. Voilà, un petit peu de malchance, mais je n'ai pas trouvé qu'il a fait un mauvais match. Je me trouve qu'il a fait plutôt un bon match.
Ouais, mais c'est justement, c'était quand je disais boulet, c'était plus sur le côté parce que cette équipe manque de peut-être de a manqué ce caractère de pour tuer le match hier. Et lui, il symbolise avec une ou deux actions. Voilà, mais c'est après parce que il n'y a pas vraiment de boulet dans cette équipe sur ce match
si,
Moyen-Âge.
Si pour en choisir un, Doudou, moi je veux pas. C'est encore une fois, j'ai l'impression que c'est redondant, mais Oussama Aouar. Ça m'a voir trop intermittent.
C'est pas redondant, il a fait des bons matchs ces derniers temps.
Non, mais quand on fait du moins les fois où je suis là dans les podcasts,
ça tombe quand
souvent,
t'es là alors.
C'est souvent à voir. Et là, sur le match d'hier, alors il a une bonne relation technique avec Paqueta, mais tu en vois qu'un des deux. Et j'ai trouvé encore une fois qu'il disparaissait de manière trop coupable dans des phases entières de match.
Oui.
Ah, là, il dit Edouard n'en rajoute pas non plus.
T'es que t'es d'accord ?
Non, mais c'est un petit peu comme Slimani, c'est difficile de retirer quelqu'un parce qu'il n'y a personne qui est en tant que boulet qui a vraiment passé, qui est passé totalement au travers, mais il y a eu tellement des intermittences dans ce match que ouais, on peut mettre l'un ou l'autre, on peut aussi en mettre d'autres joueurs.
Surtout voilà, que tu t'attends de la part d'Aouar à ce qu'il se comporte comme un patron, ce qui n'est pas le cas, notamment sur le match.
En plus, il avait le brassard de capitaine.
Exactement.
Tout à fait. Ouais.
Bon, voilà pour l'évaluation, passons au débat. Ah, effectivement, c'est pas la victoire la plus exceptionnelle, extraordinaire, enthousiasmante de l'histoire de l'OL.
Il n'y avait pas Savagny en plus.
Et, oui, c'est vrai que Montpellier était diminué. Enfin, gagner moche, est-ce que c'est grave ? Je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup traumatisé les Lyonnais de ne pas gagner de façon flamboyante.
Peter Bosch a très
bien... Surtout quand tu as perdu des matchs où tu as joué.
Voilà. Peter Bosch l'a très bien résumé en conférence de presse d'après match, où il dit qu'il n'est pas content parce que en termes de compte nul, le compte n'y était pas justement, mais que ça faisait 3 points, mais que de toute manière, au cours de la saison, il y avait eu des matchs où vous avez très bien joué, où vous n'avez pas gagné les 3 points. Donc je pense que tout finit par toujours un petit peu s'équilibrer en fin de saison, et c'est pas ouvrir des robinets d'eau tiède quand je dis ça, surtout quand tu as un entraîneur qui est une équipe qui a quand même une ambition et qui nous propose des choses relativement très agréables depuis le début de saison. Pour moi, c'était un match qui était compliqué, même si Montpellier était diminué, c'est quand même un déplacement qui n'est pas facile à gérer. Et Lyon, voilà, repart avec les 3 points. Et dans la saison, il y aura forcément des matchs comme ça où tout ne s'alignera pas parfaitement du côté du jeu, mais où l'important, c'est de prendre les 3 points.
Ouais, je rajouterais, Jonathan, le contexte du match, parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont encore marqués de ce qui s'est passé le 24 octobre à Nice. Ce 2-0 à la 80e et ce 3-0 du coup en 10 minutes qui a fait que le match a été perdu. Et quand on regarde la suite, c'était un match en tremblant face à Lens 2-1, un match troublant on va dire à Rennes 4-1, un match inquiétant Lyon-Marseille, inquiétant parce que il va falloir le rejouer et puis on ne sait pas s'il va y avoir des points en moins, des choses comme ça, donc ça peut un peu plomber la suite. Du coup, une victoire en tremblant, c'est pas plus mal pour une équipe qui a perdu quand même 10 points après avoir ouvert le score, hein, quand on regarde les stats, que ça peut plomber les têtes. On sent qu'il n'y a pas forcément de cette sérénité, mais comme on sait souvent que la tête dirige les jambes, voilà, ces 3 points font pour l'instant font quand même du bien, surtout quand voilà, c'est bien gentil de bien jouer à Paris, mais de perdre 2-1, tu repars avec 0. Et je ne parle pas du match de Nice, quoi, en fait. Donc voilà, c'est pas plus mal non plus de gagner moche, et puis en plus c'est une victoire, donc c'est pas plus mal.
Bon, faut quand même qu'on parle un peu de Paqueta et de son positionnement. Edouard, qu'est-ce qu'on en dit au club, dans l'entourage, sur en fait, voilà, évidemment il est fort, il peut jouer à plein d'endroits différents, mais est-ce que c'est pas un peu gâché quand même de pas le sanctuariser sur son meilleur poste ?
Ben oui, tout à fait, parce qu'à force de faire beaucoup de choses, finalement t'es plus vraiment bon et décisif là où tu veux l'être et dans le cœur du jeu. Là, c'est là où il veut être. Donc du coup, il y a un petit peu de frustration. Alors je pense qu'il a... J'ai pas de relation directe par rapport à ça. J'ai lu quelques confrères qui évoquaient qu'il râlait un peu, qu'il était chafouin. J'ai pas eu ses remontées, mais je leur fais bien évidemment confiance. Donc on peut imaginer que voilà, dépanner quand il n'y avait pas ni Slimani ni Dembélé parce qu'ils étaient blessés, pourquoi pas. Mais à partir du moment où l'un est revenu et désormais les deux, il préfère jouer dans le jeu, au cœur du jeu, parce que hier il a joué encore sur le côté, même s'il y a eu cette petite différence avec, donc on va dire, une défense à 3 quand ça défendait, on va dire, avec Emerson, Boateng et Denayer, et puis Malogusto qui était plus à jouer vraiment tout le côté droit pour donner un petit peu plus de liberté à Paqueta.
On l'a vu sur le côté, on l'a vu en 10, on l'a vu en pointe.
Oui. Il démarre sur le côté, c'est plus un positionnement sur la feuille pour le petit graphique d'avant-match. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été partout. Après, évidemment, son meilleur poste, c'est d'être au milieu de terrain, dans le cœur du jeu, libre avec les clés du camion. Et c'est effectivement le poste auquel il doit être. Après, le problème, c'est qu'il est tellement bon partout que, voilà, quand il y a un pépin sur un côté, forcément, tu déshabilles Paul pour habiller Jacques et tu prends le plus beau vêtement de Paul. Donc, bon, voilà, il est un peu victime de ça, mais évidemment que si le groupe lyonnais est au complet, il faut qu'il joue dans l'axe avec les clés de l'équipe. Du coup, Samaouar est incapable de les prendre sur la durée. Lui, il est capable de le faire. C'est un joueur qui est fabuleux. C'est le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de saison. Et il n'y a pas de doute là-dessus.
Bon,
Oui, surtout qu'à terme, il peut y avoir aussi cette place, parce que c'est vrai qu'il y a la rumeur d'un Houssem Aouar qui, en tout cas, s'est mis d'accord avec Tottenham au niveau de ses émoluments pour un futur contrat. Ça, c'est la partie joueur avec le club. Donc, est-ce qu'après, les clubs vont se mettre d'accord? Est-ce que c'est pour un transfert dès ce mois de janvier? On peut l'imaginer, hein, on peut tout imaginer. Du coup, bah, ça ferait une place de
Il est en fin
libérée
de contrat quand ou à Houssem Aouar?
en 2023 de mémoire.
Ouais, bon, oui, bon, donc ça sera
Non, mais
bon.
c'est-à-dire que, attends, Paqueta sur un côté, c'est pas parce que il y a Aouar.
Bah
Vous
après,
pensez que si?
ça.
Vous pensez qu'en fait, à partir du moment où il y a Aouar, on peut pas mettre Aouar ailleurs?
Bah, qui peut jouer sur le côté droit, tu vois?
Bah pour l'instant, tu mets aussi Shaqiri qui sait pas son poste.
Voilà.
Donc voilà,
Lui qui est
donc
pas bon.
ça peut aussi. Oui, mais si tu enlèves un joueur dans ce cœur de jeu, tu peux peut-être mettre Shaqiri aussi plus au cœur du jeu pour les petits espaces. Aussi, ça
Oui, mais
peut
bon,
libérer une
il...
place et pourquoi pas aller chercher après Azmoun par exemple, ce qui se murmure aussi, l'attaquant iranien qui est plutôt un ailier pour le rééquilibrer
un
ce
attaquant
groupe
de
parce que pour
couloir, ouais.
l'instant, voilà, un attaquant de couloir parce que
Ouais.
Shaqiri n'est pas un attaquant de couloir, Lucas
Exactement.
Paqueta n'est pas un attaquant de couloir non plus.
Exactement.
J'aimerais quand même, les gars, si vous le voulez bien, qu'on parle d'Anthony Lopez. Parce que l'an dernier, on l'a quand même beaucoup critiqué l'an dernier. Il y a eu l'histoire de la fameuse sortie sur l'Angevin Thomas. Après, on a l'impression qu'il était un peu trauma, tout ça. Et puis là, là, il y a eu une sérénité totale. Qu'est-ce qui a changé, Edouard?
Ben, je le dis et je le répète, et c'est ben déjà il s'est remis en cause fatalement après une année moyennasse comme tout champion et il est un champion. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Rémy Vercoutre et là donc quand tu as en entraîneur adjoint spécialiste des gardiens de but quelque part quelqu'un qui te connaît par cœur et que tu apprécies aussi même s'ils ont une histoire particulière, hein. Parce que l'un a pris la place de l'autre quand Rémy Vercoutre était au crépuscule de sa carrière à Lyon et que eh bien, Anthony Lopez l'a suppléé un jour de derby. Voilà, donc l'un a pris la place de l'autre. Ça aurait pu faire des étincelles quand ils sont retrouvés, mais voilà, il y en a. L'entraîneur connaît l'entraîné, donc il a pu travailler plus sur ses points forts que redonner de la confiance sur les points forts et travailler bien évidemment ses points faibles. Et il n'y avait pas forcément la même ambiance avec Christophe Revel l'année dernière, l'entraîneur des gardiens de but, cette notoriété. Donc fatalement, quand tu mets tout ça, plus
Bah, c'est
et il
vrai
l'a dit, je crois,
que
dans une
bon.
interview, il a été piqué aussi du fait qu'on aille que le nom d'André Onana arrive, hein.
Ouais.
Aussi, ça l'a piqué dans son orgueil.
Non, et puis il y a un truc quand même, c'est que la relation bon, entraîneur de gardien est importante. Et mine de rien, ces derniers temps à Lyon, il y a eu long. Bat, il est resté combien de temps, Edouard? 15 ans?
Ouais, 15 ou 16, ouais.
Et en fait, depuis Joël Bat, ça a quand même pas mal bougé, quoi. C'est-à-dire que il a vu passer du monde, Lopez, hein.
Bah, il y a eu Greg Coupet qui est resté quand même quelques temps, et justement il y avait cette alchimie, puis après il y a eu l'intermède Christophe Revel, donc la greffe n'a pas pris. Et là, bah,
D'ailleurs,
voilà,
vous
on revient
observerez que
aux
souvent les
fondamentaux.
gardiens se blessent comme par hasard quand il y a un nouvel entraîneur des gardiens qui, en gros, change un peu les méthodes et veut faire des trucs un peu nouvelles. Et là, pam, tac, souvent c'est là que les gardiens se blessent.
Mais moi, je souscris plus à la théorie piquée dans son ego et dans son orgueil avec l'arrivée possible à un moment d'Onana plutôt que le fait que d'avoir changé l'entraîneur des gardiens. Parce que je pense que Anthony Lopez est un gardien de niveau international qui a suffisamment d'expérience pour s'adapter à l'un ou à l'autre. Mais que, vu le caractère qu'il a, ça a vraiment pas dû lui faire plaisir le fait que Lyon aille se mettre à la recherche d'un potentiel remplaçant. Et que voilà, il a été piqué dans son orgueil, il a une réaction de champion.
Oui, et puis peut-être que la présence de Rémy Vercoute dans un moment comme ça a pu aussi être un bien pour gérer cette période, ce côté piquer l'ego et piquer l'orgueil.
Soulignons quand même que Rémy Vercoutre est devenu très calme sur le banc de touche,
Oui.
à moins qu'il y ait des choses qui nous aient échappé dehors, mais...
Ouais, alors ça, si tu me trouves une photo où il est cool,
Non,
il
mais
est
quand il était
calme.
deuxième gardien, t'entendais que lui qui hurlait sur tout le monde, sur l'arbitre de touche, sur les mecs d'en face. Là, il...
Ouais, tu as dû avoir des gros plans sur les deux fois où il était calme, non?
Ah, peut-être. D'accord.
Non, il a gardé bien évidemment son. Voilà, il est un peu plus calme forcément avec l'âge et avec l'expérience et puis son rôle. Mais il garde quand même son enthousiasme, bien évidemment.
Enthousiasme.
Bon, voilà pour
c'est
Lyon.
C'est un doux euphémisme.
On va voir ce que ça donne. Là, il y a une bonne petite série de victoires là, sur la semaine entre Brøndby et Montpellier.
3 points du top 5.
Exactement. Donc, Lyon toujours en course, toujours là. Même si,
et
bon,
le calendrier,
ça ne nous fait pas rêver en ce moment. Ouais. Oui, Edouard.
Ouais, le calendrier, c'est Reims ce mercredi. Ensuite, déplacement à Bordeaux, déplacement à Lille. Et le dernier match de l'année, ça sera juste avant Noël face à Metz. Plus potentiellement, à un moment donné, on m'a parlé du 15 décembre pour Lyon-Marseille, éventuellement rejouer. Mais je vois
ah
pas,
oui, c'est vrai. On attend
soit,
ça.
Mais voilà, il y a encore ce match-là. Voilà, il faut engranger
mais
quand même des points.
Potentiellement,
parce que là,
Doudou, ça doit faire, si tu veux agir à la mesure de tes ambitions, ça doit faire 9 points sur 12 minimum. Hein.
Ah oui, au moins, oui. Bah, de toute façon, là, il n'y a plus de points. Parce que pour l'instant, j'ai regardé, Lyon n'a jamais dépassé la sixième place hein, pour
ouais,
une équipe
mais
depuis la
mais
première journée.
Lyon, comme Marseille, comme toutes les équipes derrière le PSG, bénéficient du fait que le championnat est extrêmement resserré.
Ouais, et on ne peut pas se cacher longtemps derrière le fait qu'on est qu'à 3 ou 4 points du podium. Juste un dernier mot, si je peux
ouais.
dédier ce podcast à une supportrice de l'OL, Marina, qui a disparu ce week-end. Et c'est une fidèle de l'OL et du podcast aussi. Et puis on salue son mari Romu et puis son petit-fils Adam. Et c'est une disparition qui a beaucoup touché la gonosphère, on va dire, tous les supporters lyonnais. Donc je dédicace cet after.
Merci Edouard.
Merci Doudou.
Merci Jonathan. Le Merci. Prochain podcast After Lyon, ce sera la semaine prochaine, bien sûr. Bye bye.
RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.